podcast.com. Essaye ça.
Fait que, hein, sur ce,
Chance.
Bienvenue à Critique Exquise. On continue le FNC avec Florence. Hein.
Yes.
Elle est allée voir plein de films.
Mm-hmm.
Un bucket de films. la semaine dernière, on a discuté de deux films queer. Hein.
Mm-hmm.
Et puis, cette semaine, qu'est-ce que tu nous réserves?
Deux films pas queer cette fois-ci.
Oh. Fait qu'il n'y a pas de queer pantoute là.
Non, okay. Pas du tout. Donc, je vais vous parler de La Edad Media et de Klondike. Donc, j'embarque avec La Edad Media, que selon mon très peu de connaissances en espagnol, je pensais que c'était La Famille Media. Non, pas pantoute, c'est
erreur.
Le Moyen-Âge. Erreur, tout à fait. Donc, ça s'intitule Le Moyen-Âge et c'est un film argentin du réalisateur Alejo Mogilansky. Et de sa femme Luciana Acuña. Et c'est un couple de réalisateurs, donc, qui ont réalisé un film pendant la pandémie avec leur fille. Et c'est sur les relations humaines, les relations familiales lorsque les familles sont coincées à l'intérieur et qui prend une espèce de tangente beckettien sur les pièces de Samuel Beckett. Donc, c'est pas pour rien, il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil à Beckett. Puis, c'est un peu dommage parce que j'aime vraiment pas Beckett. fait qu'il y a un bout du film où j'étais juste comme, oh non, ça s'en va vers là. Mais c'est bien réalisé, c'est bien filmé. Puis, les personnages, on suit beaucoup, beaucoup leur fille Cléo, leur fille qui s'ennuie parce qu'elle n'a que 8 ans. Et la pandémie, puis rester à la maison tout le temps pour une enfant de 8 ans, c'est lourd. Et elle, son rêve, c'est de pouvoir observer la Lune. Fait qu'elle veut vraiment beaucoup avoir un télescope. Fait qu'elle gosse ses parents sur « Est-ce que vous allez m'acheter un télescope? » Sauf que ses parents, c'est des artistes. Fait que pendant la pandémie, ils n'ont pas de travail. Fait qu'ils essayent de se réinventer. Papa est réalisateur. Fait qu'il va essayer d'offrir ses conseils de réalisation à des gens qui font des films maison. Il va essayer de vendre ses connaissances sur les internets. Et sa mère, elle est une artiste multidisciplinaire, genre théâtre, danse, etc., chanson. Et sa mère va essayer de faire des pièces de théâtre et des pièces de danse via Zoom, mais ça marche pas. Et pendant que sa mère a une crise de foi totale, faire comme « je sais pas qu'est-ce que je fais », puis son père qui travaille comme un forcené, t'as la petite Cléo qui fait comme « je vais essayer d'avoir une routine avec deux parents qui sont plutôt particuliers ». Et il y a le chien qui s'appelle Johanna. C'est ça, Joanne, pour les intimes. Fait que le chien la suit tout le temps. Et le chien devient comme un peu son ombre. Elle la suit beaucoup. Et Cléo, s'apercevant que ses parents se foutent un peu de sa gueule quand ils lui donnent de l'argent de poche pour qu'elle puisse acheter un télescope, à coût de genre 100 pesos, et le télescope en coûte 3500, elle décide de piquer des choses dans la maison et de les vendre. Mais ça prend du temps avant que ses parents s'en rendent compte. Parce que ses parents sont comme deux tornades, puis ils se rendent pas compte même de l'existence de Cléo. En tout cas, c'est un couple très dysfonctionnel, mais fonctionnel quand même. Puis de là, la réalité se désintègre, puis il commence à avoir de plus en plus de choses irréelles qui se passent, malgré une pandémie qui a commencé très, très réelle, puis qui est devenue super irréelle. Fait que c'est aussi une petite critique du monde en ce moment, puis aussi une critique sur le monde des arts. Parce que les deux parents se remettent en question totalement, à savoir, est-ce qu'il y a une suite après la pandémie pour les artistes? Puis c'est aussi une question qui a été relevée beaucoup, beaucoup pour les artistes. C'est un peu trop on the nose là, avec ce film-là, je vous le cacherai pas.
Un petit peu à propos, hein?
C'est très à propos. C'est aussi un peu narcissique dans la façon que c'est traité. Mais c'est pas narcissique du genre « Oh, il a encore parlé des artistes. » Non, non, c'est genre « Ce sont des artistes qui parlent de leur réalité et qui font comme « Ah, ben là, avez-vous pensé aux artistes? » Oui, on y a pensé, justement. Mais c'est ça. Ça fait un peu narcissisme, mais narcissisme comme innocent, cute, là. Puis ce qui est un peu dommage, c'est que ça va pas au-delà de cette réflexion-là. Fait que j'ai trouvé ça... ça s'arrêtait un peu. J'aurais voulu que ça aille plus loin, mais c'est parti dans une autre direction totale. Puis qui a fait... c'est ça. C'est un curveball à la Samuel Beckett, là. Puis, tu sais, c'est... En attendant Godot, puis genre tout ça, là. Fait que... Puis, ben, la petite fille, elle lit ça aussi. Fait que c'est beaucoup, beaucoup on the nose, puis tout ça, là. Fait que... Mais c'est joliment filmé. Puis, ben, on prend beaucoup, beaucoup pour Cléo, même si elle fait des affaires niaiseuses pour une petite fille de 8 ans, qui a pas d'encadrement, malheureusement. Fait que... Puis, c'est fait un peu à la journal, comme une pièce de théâtre, en fait. Puis, ça s'imbrique bien, même dans son médium, là. C'est, même si c'est pas une pièce de théâtre, ça s'imbrique bien dans le fait que c'est un film qui raconte une pièce de théâtre en film. Fait que, c'est quand même une, tu sais, c'est quand même, veut pas un tour de force de faire ça sans qu'on s'en aperçoive. On s'en aperçoit comme plutôt vers la fin. Fait que, beau, bel job, mais c'est ça. Ça s'essouffle un peu malgré son propos. Mais ça a quand même une note de 6.5 dans mon livre à moi.
Quand même. 6.5 pour Cléo. Écoute.
6.5 pour Cléo et okay. Joanne.
Et Joanne.
Oui, Joanne le chien. Puis il y a des petites, tu sais, c'est vraiment comme aussi la narration, puis la façon dont c'est cadré, dont justement là, on parle du film, puis on parle des protagonistes. C'est aussi très enfantin. Fait que ça suit aussi le regard de Cléo, puis ce qu'elle porte sur son environnement. Fait que je trouvais que c'était très. Le ton est là. C'est juste que ça aurait pu être plus loin, ça aurait pu comme aboutir, genre vraiment plus tight, mais. C'est pas laid, ça se laisse très bien regarder, c'est très cute. Il y a des fois où j'ai fait comme « Oh God, les parents sont insupportables », puis c'était ça que ça voulait démontrer. Fait que ça fit. Fait que la Edad Media, allez-y, film argentin, super cute. Et ensuite, pour un sujet un peu plus sérieux...
oh, ça part mal, là.
Non, c'est mon préféré du festival à date.
Ah, OK. C'est juste sérieux, genre.
C'est juste très sérieux. C'est Klondike. Et ça met un peu en lumière la situation qui se passe présentement. Mais ça se passe en 2014 en Ukraine.
Ah!
Et en 2014, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, il y a eu l'annexion de la Crimée, ainsi que des combats dans le Donbass. Et on suit une famille en terrain occupé russe, donc une famille ukrainienne. On suit justement la femme qui est enceinte et Tolik, son mari, qui est ukrainien et qui veut la faire se déplacer pour qu'elle puisse accoucher. Tolik s'est bien rendu compte qu'à force d'être ukrainien, il allait avoir juste des limites. Fait que le choix qu'il doit faire, c'est soit il reste chez eux et il devient russe, ou soit il part et il garde son identité ukrainienne, sauf que sa femme veut pas partir. Elle refuse de partir systématiquement. À chaque fois qu'ils reviennent avec le sujet, elle veut rien savoir. Et soudainement, il y a un avion qui s'écrase pas loin. Hein? Il y a eu un avion qui a été tiré à vue en 2014, qui partait d'Amsterdam jusqu'à Kuala Lumpur et qui a été abattu en plein vol par les forces armées russes. Et ça se donne que le vol qui... en fait, on nomme pas le vol dans ce film-là. On dit juste qu'il y a un avion qui s'est écrasé et l'avion s'est écrasé proche du champ de cette famille-là. Il y a eu des bombardements, donc la maison, il manque un pan de mur. Et il y a des choses qui sont tombées, dont des passagers proches de la maison. Fait que Et c'est là où comme la tension monte d'un cran parce que, bon, veut pas, la femme attend le bébé avec impatience, mais les forces armées russes sont en train de couvrir le fait qu'ils ont tiré un avion de ligne. Fait qu'ils doivent rassembler tout ce monde-là, en fait, pour vrai, dans la réalité. Puis dans le film aussi, c'est un peu indiqué. C'est que les boîtes noires ont été cachées par l'armée russe. Et par contre, l'armée a été quand même proactive dans le fait de rapatrier les cadavres au pays qui demandait ces cadavres-là.
Ils se sont quand même trompés, puis ils ont quand même tiré un fucking...
Oui. Ils ont tiré un avion de ligne. Un avion passager. Puis, ben, c'est ça. Ils ont essayé de nettoyer un peu qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis, ben, dans ce film-là, on voit aussi des personnes qui vont à la recherche de la dépouille de leur enfant sur ce vol-là. Et on voit aussi la dichotomie entre le couple ukrainien et le couple de parents qui viennent, des Néerlandais qui viennent pour retrouver leur enfant. Et tu vois que les couples se parlent absolument pas parce qu'il y en a un qui est atterré par la douleur de perdre son enfant et l'autre est atterré par la douleur de perdre son territoire. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs heavy comme ça. Et Tolik, donc il vit avec sa femme, oui. Ils n'ont plus d'électricité dans leur chaumière. Ils doivent faire des sacrifices aux soldats russes qui viennent, puis tout ça. Puis la femme n'est pas contente, puis Tolik n'a pas le choix. Mais ils vivent aussi avec le... avec le frère de sa femme, donc. Et le frère de la femme, lui, ben, il est très pro-Ukraine. Il vient de Kiev, puis il essaie un peu de foutre la merde Antolik puis sa sœur, puis faire comme, ben là, pourquoi t'es associé aux Russes, puis il faut comme sortir ma sœur d'ici, puis tout ça. Puis elle veut absolument rien savoir. Et bon... il y a quelque chose qui se passe avec ça. Il y a une culmination. On sait que soit il y en a un qui survit ou les... Soit il y en a un qui survit ou les deux ne survivent pas. Fait on ne sait pas. Puis on ne sait pas non plus pour l'avenir de justement la femme. On ne sait pas du tout. Mais comme elle est enceinte, ben il y a un peu un espoir, tu sais. Mais ça donne... À la toute fin, ça donne un gros coup. Puis faire comme... C'est encore les femmes ukrainiennes qui doivent porter le lot du tribut de guerre et qui doivent refaire tout, recommencer tout. Et c'est un gros constat à faire à la fin du film. Puis c'est ça, le gros constat vient faire un pouf à la fin du film. Fait que c'est un film qui est lent. C'est un film qui prend son temps pour développer les personnages. C'est un film dans lequel on sent tout le poids des décisions politiques que les personnages vont prendre. On sait aussi pourquoi ils prennent cette décision-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas les blâmer pour les choix qu'ils font. Que ce soit Tolik qui change d'allégeance et qui va aux Russes, que ce soit le frère de sa femme qui est pro-ukrainien et qui veut défendre sa patrie, on ne peut pas les blâmer. Fait que c'est un scénario où il y a personne qui gagne. Puis j'ai trouvé que c'était un film de son temps, là. Littéralement, là, maintenant, c'est intéressant de voir ça. Mais ça vient rejoindre aussi Atlantis, dont on avait parlé l'année dernière. Un autre film sur l'Ukraine et et à quel point la guerre, ça soque. Puis, ben, Klondike vient jouer là-dedans avec un 8.5 sur 10.
Quand même.
Fait que, un film heavy, mais un film qu'il faut voir. C'est bien filmé, la musique est bien faite, les personnages sont vraiment bien construits, puis ça veut dire quelque chose. Puis le film a été filmé en Ukraine et en Turquie.
OK.
Et c'est une réalisatrice qui l'a fait, hein, j'ai pas nommé son nom, mais c'est Marina R. Gorbach. Puis il y a une sensibilité aussi de la réalisation Tu sais, genre, tu vois que c'est un film qui lui tient vraiment à cœur. Fait que un gros, gros, gros plus 8.5. Allez voir ça. Ça vaut la peine. Fait que voilà. Je suis allée tout léger avec la Eden Media au départ, mais là, Klondike, allez-y.
Quand même, hein? Quand même.
Yes.
OK.
Mm-hmm. Okay. Un gros film heavy, mais c'est ça. Ça, Atlantis, je pense que c'est les deux films que je recommande pour bien comprendre la situation en Ukraine.
D'accord. Écoute, du lourd, Florence, cette semaine, du lourd. Sauf Joanne, ça c'est correct.
Joanne le chien, oui.
Joanne le chien était chill. Mais effectivement, Klondike, un film à propos de ce qu'on vit présentement. Hein. En fait, deux films à propos de ce qu'on vit présentement à deux niveaux très différents, mais
exact.
Tout de même, deux choses qui changent notre histoire, hein, la pandémie et puis suivi de la guerre en Ukraine qui pourrait dégringoler à qui sait. Je reste optimiste, mais tout de même.
Oui, on la connaît. C'est une épée de Damoclès qu'on connaît très bien.
Exact. On revient à il y a 30-40 d'années. Un peu le climat similaire, mais différent.
Les années 80 ont fait un comeback.
Oui, par contre, avec une Russie affaiblie par elle-même parce que son dirigeant n'est en point doté d'intellect.
Son dirigeant est tout seul. Son dirigeant est tout seul, puis il y a moins de territoire, mais on a l'inflation, puis on a comme cette épée de Damoclès, fait qu'on n'a pas Thatcher, fait que
non, non, non. Puis,
give thanks for small favors.
Non, d'ailleurs, puis on n'a même plus de premier ministre fait que, au UK. Fait que
c'est ça, c'est pour l'instant.
C'est ça. Ben écoute, je pense que ça fait le tour cette semaine,
yes.
Hein, Florence. Merci beaucoup d'ailleurs de couvrir ce festival pour la gang, comme dirait notre chat Tommy.
Ben, ça me fait plaisir, n'importe quand pour les
FM. On sera heureux d'être content de te reparler bientôt, hein,
ben
dans
oui.
les semaines à suivre pour le restant. Et puis après ça, on va sûrement tremptranquillement hein, se remettre, se tremper les orteils dans l'eau du cinéma, hein, parce que c'est ce qu'on fait l'hiver, puis l'été, ben, on sort dehors.
Donc,
on est plus actif l'hiver, puis on est moins actif l'été. Hein, c'est comme ça. Inquiétez-vous pas, vous allez nous entendre. En vous remerciant d'ailleurs de nous suivre malgré nos horaires
décousus,
voilà, merci. On remercie évidemment hein, vous, mais surtout Martin Godette hein, qui s'efforce tant bien que mal de nous mettre sur les internets et puis de nous aider évidemment à propulser nos capsules et nos belles voix partout sur la planète. Donc, en le remerciant beaucoup, podcast.com, hein, notre OnlyFans, évidemment, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Ben oui, oui.
Notre fictif OnlyFans. Et évidemment, on attend toujours le sequel du film de Shaunie Bee de 2020.
Comment
avec
Shaunie?
Impatience.
Yes.
Ouais. C'est ça.
Bonne bobine.